Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
Découvrez le nouveau café érable Pacan de Nespresso. Une saveur en or. Un nouveau café d'exception enrichi à la perfection par l'érable et la pacane. Dégustez-le noir avec du lait ou glacé. Visitez une boutique Nespresso pour une dégustation.
Martineau, souvent imité, mais jamais égalé.
Vous écoutez
Martineau,
Cube Radio.
Alors, nous parlons avec l'analyste politique Nick Payne. Salut, Nick.
Salut, Richard.
Écoute, il y a eu un sondage léger qui a été dévoilé, qui a été commandé par la CAQ, il faut le dire. Et on apprend qu'une majorité de Québécois trouvent que la plus grande menace pour le français, ce sont les immigrants qui ne parlent pas la langue officielle du Québec. Qu'est-ce que tu en penses?
Oui, et selon le sondeur Christian Bourque, d'ailleurs, c'est encore davantage en région qu'on a cette impression-là. C'est un peu l'idée qu'on se fait de Montréal quand on n'y vit pas, si tu veux, au fond. Alors, comme tu le dis, là, les gens pensent que c'est simple comme ça. C'est-à-dire, enfin, selon le sondage, hein? Puis tu disais que c'est un sondage commandé par la CAQ. Effectivement, les partis politiques au pouvoir commandent toutes sortes de sondages
qui
nous les font connaître particulièrement quand ça va dans le sens de leur politique. Mais c'est le cas ici, mais ce sondage n'est pas moins fiable pour autant. Et donc, les gens font la corrélation directe. Plus d'immigrants, moins de Français. Ça témoigne d'une sorte de... D'abord, on a l'impression que la pédagogie là, sur les questions liées à l'immigration et aux Français se fait mal au Québec. Et c'est plus ou moins étonnant. Hein? L'immigration, c'est un sujet qui est un peu tabou. Il n'est pas vraiment toléré ou permis d'en parler si c'est pour dire autre chose que « c'est merveilleux, c'est merveilleux, c'est merveilleux ». Même si on peut être, tu sais... humaniste, tout à fait ouvert à l'idée d'aider les gens qui n'ont pas la chance de vivre ici en les accueillant chez nous, on peut quand même aussi réfléchir sur les effets des flux migratoires dans un endroit, par exemple, comme le Québec, où il y a déjà une situation identitaire particulière. Et c'est ça aussi que je retiens du sondage, c'est que on semble être... On parlait, toi et moi, de déni cette semaine. J'ai l'impression que les Québécois ne mesurent pas l'état de concurrence identitaire qu'il y a au Québec. Là. Comment se fait-il qu'on voit les immigrants comme une menace aux Français? Ben, c'est forcément parce qu'ils font des transferts linguistiques vers l'anglais. C'est pas parce qu'il y a 4000 personnes qui parlent ouzbek et puis 6000 qui parlent espagnol puis 11000 qui parlent, je sais pas, une autre langue que ça va menacer le français, ça. Le problème, c'est que le français peine à attirer vers lui une masse, une quantité là, d'immigrants suffisante pour en assurer la pérennité. Mais ça, on dirait que ça rentre pas dans le tableau. Parce qu'à partir du moment où tu prends ça en considération, tu comprends bien sûr que le problème, c'est pas les immigrants eux-mêmes, c'est le contexte dans lequel on les accueille. Et pour ajouter à cette espèce de déni qui transpire du sondage, on pense, tu vois, que c'est ça, mais on pense que les immigrants qui vont dans les cégeps anglophones, ça, c'est pas un problème. Ou les francophones qui vont au cégep anglais, c'est pas un problème aussi. Hein. Il n'y a que 3% des répondants qui pensent que ce phénomène-là, donc l'éducation en anglais au collégial, pose problème pour la langue française. Voici un lourd défi pour le Parti québécois qui, lui, prône le cégep en français.
Et c'est bizarre aussi, hein, de la part des anglophones, lorsque un allophone s'en va chez les anglophones, c'est une ouverture à la diversité, mais lorsqu'on veut que les allophones s'associent plutôt aux francophones, ça, c'est de l'intolérance et de la fermeture. C'est un peu bizarre.
Ah, ça, ben ça. Oui. Oui, ça, c'est vieux comme le Canada, évidemment, ce discours-là. C'est la chanson, c'est la petite musique habituelle dominant sur le dominé. Et si toi, tu, si le dominé veut se tenir debout, il est raciste et nationaliste ethnique. Que lorsque le dominant fait triompher sa culture, il est plein d'ouverture et de gentillesse. Bon, on connaît la chanson, mais donc c'est ça. Clairement, on ne semble pas mesurer ça correctement là au Québec. La question qui est beaucoup plus large en fait là qu'une simple affaire d'immigration. Évidemment, dans un contexte où on a de la difficulté à amener des transferts linguistiques suffisants. Les transferts linguistiques, là, ce sont donc les immigrants qui vont choisir une nouvelle langue en arrivant ici. Au Québec, là, c'est à peu près à 50% qu'on choisit le français, alors que dans un pays normal, on est à 90-95%. C'est ce que ça prend pour assurer le maintien et la pérennité d'une langue commune. Alors, on est très, très, très loin du compte au Québec là-dessus. Puis c'est ça, on voit pas ça dans les chiffres du sondage. Puis évidemment, c'est un sondage qui va permettre puis on l'a déjà vu, hein, la machine de rectitude politique se mettre en marche. Les progressistes se sont prononcés en disant, bon, les Québécois sont racistes. On a vu un début de discours comme ça. C'est dommage parce qu'évidemment, faudrait que des leaders, des personnalités politiques, des leaders d'opinion, des intellectuels mettent des mots là-dessus et répandent plus dans l'espace public que c'est pas l'immigration en soi qui est un problème, mais bien le fait qu'on arrive mal à intégrer les immigrants parce qu'il y a une concurrence identitaire canadienne-anglaise forte en sol québécois. Puis ça vaut pour les francophones aussi, hein. Il y a aussi des francophones qui passent à l'anglais au Québec, là, et au franglais à mi-chemin.
Écoute, il y a une affirmation d'un commentateur qui me fait hurler de rire. C'est Michel Séaugé, qui a écrit dans la presse, avant d'adopter la loi 96, le gouvernement aurait dû peut-être faire des études sur l'impact de la langue. Puis des études, je dis, il y en a eu des milliers d'études, voyons donc.
Il y en a des milliers. Voyons. La vie quotidienne de n'importe quel citoyen lambda à Montréal est une étude. À moins que tu sois complètement aveuglé par l'idéologie, tu vois bien là que c'est forçant pour le français. Là. Pas besoin d'études encore pendant 100 ans pour comprendre ça. Mais Michel Séaugé, bon, sans vouloir s'en prendre à nos amis de la compétition, il est depuis plusieurs années dans le club des jovialistes sur la question de la langue. Il avait publié un livre là, pour dire qu'il n'y avait pas de problème il y a quelques années. Bon, qu'est-ce que tu veux? Des fois, l'idéologie, c'est fort.
Oui, et tu veux me parler de l'école Robert Gravel qui a décidé d'adopter un code vestimentaire non genré.
Ah oui, alors ça, c'est vraiment emblématique parce que ce n'est évidemment pas une école dans le rang 8 à Sainte-Perpétue. Hein. C'est l'école des où vont les enfants, des bobos. le code vestimentaire est non genré, hein, c'est bien le terme qui a été choisi. Alors c'est une sorte d'écho à la nouvelle qu'on a eue plus tôt cette semaine là, sur l'école Père Marquette où on mesurait la longueur des shorts avec une règle et évidemment, à cette école-là, on avait fait tout ce qu'il fallait. C'était la recette parfaite pour se faire rire de soi. Ça faisait un peu caricatural, mais quand même. Et puis je t'ai entendu là-dessus, Richard, dire que on devrait expliquer aux jeunes garçons qu'il faut arrêter de s'énerver avec la peau des jeunes filles. Je sais pas si tu te souviens de ce que tes hormones te faisaient quand tu avais cet âge-là.
Ah oui, c'est sûr qu'on avait les hormones au plafond, là. C'est sûr et certain.
Oui, c'est ça. Puis je trouve que ce débat-là sur la façon dont ça a été amené à Robert Gravel, là, c'était vraiment, les parents disaient, mais c'est épouvantable, le contrôle du corps des jeunes filles pour les mettre presque au service des jeunes garçons. Il faut modérer ces transports un peu. Moi, je trouve que ça, c'est le triomphe de féminisme culturaliste, hein, celui qui dit que toute différence entre les hommes et les femmes, et donc entre les garçons et les filles, est le produit de la culture exclusivement. Hein. Mais quand même, je comprends là, que, tu sais, d'abord, dans une école, on n'est pas obligé de penser comme Grégory Richard que les garçons et les filles ne doivent pas être ensemble. On pourrait aussi aller là. On peut comprendre que les jeunes filles, autant que les jeunes garçons, peuvent être à l'occasion perturbés par la présence de l'autre sexe à l'école. D'accord, là. Mais on peut aussi voir que ça ne se vit pas de la même façon quand même chez les garçons.
Je comprends. Il y a la biologie. Tantôt, Denise Bombardier me parlait de ça. Il y a la biologie des garçons. Boys will be boys, comme disent les Anglais. C'est certain que, bon, les garçons hétérosexuels, bien sûr, sont bien énervés lorsqu'ils voient des cuisses. Puis quand une fille arrive avec un décolleté, c'est certain que... En même temps, j'ai peur qu'on tombe dans la logique des islamistes en disant « Femme, vous êtes source de péché et vous devez couvrir votre corps. » Tu sais.
C'est ça. Il faut trouver le juste milieu. Je suis d'accord avec toi. Cette pente-là n'est jamais très loin. En même temps, bon, on est au Québec, là. J'ai pas l'impression qu'on est trop, pour l'instant, susceptible d'aller là demain matin. Mais oui, je suis d'accord avec toi. Il faut avoir ça à l'esprit. Mais, tu sais, quand les policiers font ce qu'on pense être du profilage racial, hein, tout le monde leur tombe dessus à bras raccourcis, c'est bien effrayant, vous êtes raciste, mais au fond, c'est aussi parce qu'ils ont l'expérience du terrain. Et puis, ils sont habitués à ce que, ben, parfois, dans certaines communautés, il y a certains types de crimes, bon, alors ils vont suspecter quelqu'un de cette communauté-là plus rapidement. Peut-être à tort, mais parfois, c'est utile aussi de le faire. Ben, c'est un peu la même chose. Les gens dans les écoles, le personnel qui est sur le terrain a probablement remarqué qu'est-ce que tu veux que... Ben, c'est les garçons qui sont portés sur le côté graphique du désir, là, si tu veux, pour dire ça simplement. Puis, faut essayer quand même là de créer minimalement, j'imagine, un environnement où qui est le moins perturbant possible pour eux.
Sans envoyer un message qu'on veut contrôler le corps des femmes non plus, puis leur dire comment s'habiller, c'est un terrain glissant.
Oui, non, mais c'est ça. Puis d'ailleurs, les gens, les parents de Robert Gravel qui tiennent ce genre de discours-là, c'est souvent les mêmes personnes qui ont beaucoup de difficultés à critiquer le port du voile. Hein.
Ben oui.
Faire marquer. Alors ça, c'est curieux. Ben oui. Là. Je sais pas si... Il y a une sorte de deux poids, deux mesures.
Exactement.
Hey, écoute, on sera d'accord pour pas être tout à fait d'accord sur celle-là, mais disons que moi, là encore, l'idéologie, parfois, je trouve qu'elle peut prendre le pas. Tu sais, tout le monde se désole des difficultés des garçons à l'école. Quand Grégory Charles a fait sa sortie pour dire qu'on devrait séparer les gars et les filles, c'est parce qu'il, lui, considérait que un garçon et une fille, c'est pas pareil, ça n'a pas les mêmes besoins. Et on s'est empressé de se foutre de sa gueule. Mais moi, je pense qu'il y a peut-être quand même des avenues de réflexion là qu'on se refuse et qu'on devrait.
Il faut pas que l'idéologie non plus fasse en sorte qu'on oublie la biologie qui existe, qui est là aussi. Merci.
Minimalement.
Merci, Nick. Bon long week-end. Salut.
Toi aussi, Richard.
Bye.
Salut.